des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Question du public.
Vous êtes à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette. Vous écoutez ça sur Cube Radio. Et on est maintenant à l'étape des questions du public. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions. On va essayer d'en faire le plus possible. Ça sera pas facile cette semaine. Merci toujours de votre participation.
Ouais, c'est vraiment le fun.
N'hésitez pas à nous écrire. On va vous donner les endroits où nous écrire plus tard. Mais on va commencer par la question de Jonathan Chabot, parce que ça, c'est une question... c'est une des grosses histoires de la fin de semaine, mais aussi peut-être une des grosses histoires pour le reste de la saison. Jonathan nous dit que c'est un fidèle auditeur de notre podcast et on le remercie. Sa question est, selon vous, est-ce que les 49ers seront une meilleure équipe avec Jimmy Garoppolo aux commandes à l'attaque? Avant la terrible blessure de Trey Lance, l'attaque semblait avoir régressé depuis le début de la saison.
Ouais, ça c'est. Je suis content aussi que Jonathan amène la question parce que ça aurait été assurément dans nos sujets en entrée de show. Quand on a vu qu'on a eu la question, ben on s'est dit pourquoi pas l'attaquer dans ce segment-là. Donc merci. Puis écoute, c'est bien difficile. Quand on dit que l'attaque semblait avoir régressé depuis le début de la saison, moi j'aurais voulu voir Lance à plus long terme. Là, écoute, il a joué 73 minutes cette saison, dont 60 minutes dans la boîte à Chicago. C'est pas un échantillon là, qui peut nous dire ben l'attaque avait régressé ou pas. T'sais, c'était comme une game un peu flouque qui sort de nulle part, des conditions impossibles. Donc, ça, on saura vraiment pas ce que Trey Lance valait. Puis c'est ce qui est le drame chez les Niners. C'est pas que Jimmy G soit revenu. Ça, au contraire, c'est un coup de génie de l'avoir ramené. Mais le drame, c'est que tu sais toujours pas ce que tu as entre les mains avec Trey Lance. Puis il va être à son année 3 l'an prochain. Ça, c'est moins le fun pas mal, là, parce qu'il y a eu un temps de jeu très limité. En tout cas, c'est la question qui m'inquiéterait du côté de San Francisco. Dans le présent, moi, je suis loin d'être convaincu que les Niners, c'est une mauvaise chose, là, au sens où Jimmy G, il est limité. Tu sais que c'est pas le gars qui va t'amener l'attaque la plus explosive du monde, mais les Niners savent exactement ce qu'ils amènent. Ils connaissent bien. Les vétérans l'adorent. Je sais pas si tu as vu, Jean-Nic. Ouais, je pense que je t'ai envoyé la vidéo. Hein.
L'espèce de célébration entre coéquipiers. Tout le monde est tout sourire. Les gens, les gars aiment Jimmy G.
Oui, c'est clair. T'sais, il est arrivé dans le caucus, puis ça, il tape sur le casque, ça, il brasse les épaules, puis ça sourit. Puis tu vois qu'il est apprécié dans ce vestiaire-là, ça, c'est sûr. C'est un leader qui a été amené les Niners très loin dans les dernières années quand il était en santé. Il y a une fiche de 33 victoires, 14 défaites. Je comprends qu'une fiche, c'est pas juste la fiche d'un corps arrière, mais c'est un gars qui est capable d'aller gagner. Par contre, moi, je m'attends à une petite phase d'adaptation. Tu sais, les Niners ont tout transformé leur système.
C'est sûr.
Ben, c'est ça. Tu amènes un corps arrière mobile comme Trey Lance, athlétique. Tu veux miser là-dessus, tu changes tout ton playbook. Finalement, tu reviens au bon vieux Jimmy G, qui est plus le traditionnel corps arrière de pochette. On va devoir rechanger complètement l'approche offensive. Donc, c'est possible que l'attaque se cherche un petit peu. Si on passe par-dessus ça, je pense que les Niners sont en voiture avec Jimmy G, puis qu'ils pourraient même mieux performer au final, là, parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils ont entre les mains. Il y a moins de facteurs inconnus.
Question de Jérôme Jacques. Pourquoi Kirk Cousins, mon cher Stéphane, a autant de difficultés à remporter des matchs lors du Monday Night Football?
Ben, écoute, rendu là, moi, je pense tout simplement qu'il est comme ça, Kirk Cousins. C'est trop gros, le stage est trop gros pour lui. Puis là, c'est pas juste de sa faute, évidemment. Puis je l'ai souvent dit, c'est pas un mauvais corps arrière, Kirk Cousins. C'est un bon corps arrière, mais c'est pas plus que ça. La preuve, c'est que sa fiche en carrière, là, c'est maintenant quelque chose comme 60-62. 60 victoires, 60 défaites, 2 nuls. Il n'y a pas plus correct que ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu ne peux pas aller beaucoup mieux. Sa fiche le lundi, c'est maintenant 2-10. Dans les matchs à heure de grande écoute, 10-18, les matchs en soirée. Écoute, à un moment donné, c'est le corps arrière que tente les mains. Il est bon. Dans les matchs là, bien ordinaires à une heure, il va être capable d'aller te chercher de gros chiffres. Puis tu vas te dire, hey, je pense que c'est une attaque qui peut être sensationnelle. Puis finalement, quand la cuisine, ça commence à chauffer un peu, ben il redevient un peu le Kirk Cousins qui se replie sur lui-même, qui tente des passes à l'aveuglette, qui est pas capable de fuir la pression. Je pense tout simplement que les Vikings ont un échantillon convaincant depuis quelques années, là. Puis ce sera pas mieux, ce sera pas pire, ça va être toujours le même Kirk Cousins.
Fred Bazin sur Twitter qui nous pose la question: est-ce que le problème à l'attaque des Steelers, c'est le carrière ou c'est Matt Canada, le offensive coordinator?
Ouais, c'est une excellente question parce que j'ai l'impression que c'est un sacré beau duo à problèmes, en fait. Tu sais, là, Matt Canada, le coordonnateur offensif, les joueurs l'ont critiqué ouvertement après la game. On est à la deuxième semaine d'activité, rappelons-le, la troisième qui commence. Après deux matchs, déjà les joueurs le pitchent en dessous de l'autobus. Je parle de Trubisky lui-même qui a dit des commentaires à l'effet qu'il pouvait pas aller en profondeur si les jeux étaient pas appelés en fonction d'aller en profondeur. Même genre de commentaires du côté de Chase Claypool, du côté de Diontae Johnson. On parle des vedettes à l'attaque qui critiquent ouvertement leur coach. Ça, c'est pas bon signe. Par contre, Trubisky, moi, je l'ai dit depuis quand même un bout, je suis pas vendu. Il m'a jamais convaincu. Il y a eu un bon échantillon là, pour se faire valoir, que ce soit à Chicago dans les années passées, ou là, Pittsburgh, on voit que c'est pas vraiment mieux que ce qu'il nous a montré par le passé. Est-ce que Kenny Pickett est prêt à aller dans la mêlée? Ça, il y a juste les Steelers qui le savent. On peut faire bien des hypothèses de notre salon puis leur lancer des roches parce qu'ils l'embarquent pas. C'est eux qui le voient à l'entraînement, dans les meetings d'équipe, dans les meetings offensifs. Ça, le temps devrait nous dire ce qu'il y en est. Mais honnêtement, cette semaine, ça aurait pas été une bonne idée de l'envoyer dans la mêlée un jeudi soir avec 3 jours de préparation. Il va avoir 10 jours avant le prochain match contre les Jets. Ça pourrait être un pensez-y bien là, de se revirer vers Kenny Pickett pour la semaine 4. Mais honnêtement, en ce moment, Canada est autant un problème que lui. Donc, c'est un sacré beau duo.
Que faire avec Ryan Tannehill, nous pose la question, c'est de Régent Perron. Est-ce le temps d'aller avec Malik Willis?
Ben, le problème des Titans, c'est que pour l'instant, moi, je pense qu'ils ont les mains liées. Malik Willis, c'est pas encore arrière qui était prêt pour la NFL. Un choix de 3e ronde. Un prospect excitant, là, au sens où il est extrêmement athlétique. T'sais, c'est un joueur qui peut amener un électrochoc à l'attaque, mais ça va durer combien de temps? T'sais, au niveau de la passe, je pense qu'il est clairement pas prêt. T'sais, il a joué à Liberty, lui, dans la NCAA. Là, c'est clairement pas un programme qui est conçu pour amener tes joueurs en claquant des doigts de la NCAA à la NFL. Donc, je serais surpris qu'avant la fin de l'année, là, on lui donne une chance. Peut-être en fin de saison ou, je sais pas, moi, à la mi-saison, si les choses s'écroulent vraiment. Mais pour l'instant, il faut que tu continues avec Tannehill pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Ouais. En ce moment, ça semble plus aller du côté pire que meilleur.
On parlait de Kirk Cousins, deux carrières qui ont été repêchés la même année, qui ont pas mal le même parcours. Là.
Ouais, c'est ça. Exact.
Des parcours moyens. OK, Pierre nous pose la question. Compte tenu de la blessure à Herbert et que les Chargers reçoivent les Jags, est-ce que ça vaut la peine de le faire jouer? Bien sûr, sans rien prendre pour acquis pour les Jaguars.
Ouais, faut surtout que les Jaguars viennent d'en sortir une bonne. Leur front défensif a l'air quand même très intéressant cette saison. Là, on se rapproche du bon vieux Saxonville de 2017. Là. On n'est pas rendu là, mais quand même, il y a des signes encourageants. Moi, je dis que si Herbert, il n'y a aucun doute sur son état de santé, là, c'est pas une question de « Ah, oh, on va le préserver, c'est juste les Jaguars, faut qu'il joue. » Là. Tout simplement, il n'y a pas de match gagné dans la NFL. Si par contre les médecins de l'équipe arrivent à la conclusion qu'il y a le moindre risque là, d'aggravation ou quoi que ce soit, puis que là tu risques de le perdre à long terme, ben écoute, ce serait une très bonne idée à ce moment-là d'envoyer Chase Daniel dans mêlée. C'est tout simplement ça que les Chargers doivent se poser comme question.
Roussovski, Pierre-Luc Roussovski, hein, je présume. Comment expliquez-vous que les Jags dominent outrageusement les Colts à répétition, alors que sur papier, Indianapolis est beaucoup plus talentueux?
Ça, ça fait partie des grands mystères, de la vie. Comme la caramille un peu. Là,
non, parce que Frank Reich, mettons qu'il a été assez sévère avec lui-même puis avec son équipe, avec raison, là, 24-0 contre Jack Stace.
Hey, ça fait trois fois depuis 2017 que les Jags blanchissent les Colts. Les Jags, je pense qu'ils ont 8 victoires de suite à la maison contre les Colts. T'sais, à un moment donné, j'ai l'impression que ça fait juste jouer dans la tête des joueurs. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils se font parler de ça jour après jour après jour. Hey, qu'est-ce qui se passe contre les Jaguars? Puis, ça finit qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tu joues les fesses serrées un peu. Puis, je parlerai pas des autres années, mais cette année, c'est clair qu'il semble y avoir des lacunes. Là. Les Colts qui avaient peut-être mal évalué leur profondeur au niveau des receveurs. Tu sais, quand Michael Pittman est sur la touche, là, il te reste plus grand-chose. La ligne à l'attaque, qui joue clairement sa pire saison depuis des lunes, puis on a investi beaucoup d'argent sur cette ligne à l'attaque-là. Honnêtement, on commence à se demander s'il y a pas un problème de ce côté-là. Donc, ça va être à voir. Là, les Colts sont encore en masse le temps de se relever. C'est une division qui est très faible. C'est pas le moment de paniquer. Mais c'est certain que les problèmes à Jacksonville, moi, j'arrive très mal à les expliquer, bien honnêtement.
Est-ce que les Cowboys ont gagné avec l'énergie du désespoir ou Cooper Rush peut remettre le ballon à Dak Prescott avec une fiche gagnante quand il reviendra de blessure? Une question de Toby.
Oui, merci Toby. C'est pas dans le domaine de l'impossible là, qu'ils reviennent avec une fiche gagnante parce que tu regardes le calendrier, ils affrontent les Giants lundi soir puis Washington la semaine d'après. On devrait se retrouver ça à peu près là, au retour de Dak Prescott après ces deux matchs-là. Fait une fiche gagnante quand il va revenir, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est dans le domaine du très possible. Tant qu'il va continuer, Cooper Rush, de jouer dans les limites de son talent, de faire le nécessaire, tu sais, sans essayer de jouer le hero football, là, ça devrait fonctionner pour les Cowboys qui sont bien appuyés défensivement. Honnêtement, Micah Parsons, tout un phénomène là, quand tu le regardes jouer. Là, il peut jouer autant au milieu qu'à l'extrémité pour aller chasser les corps arrière. C'est ça qui est beau à voir de ce joueur-là. Ils peuvent l'utiliser un peu n'importe comment, puis il va répondre présent. Donc, c'est ça. Là. Mais Cooper Rush, faut juste faire attention. Là. Ça va. Je pense qu'il fait une très bonne job comme réserviste. Là, il y a deux games de tape maintenant, là, celle de l'an passé contre les Vikings, puis celle de cette semaine, là, qui vont permettre aux équipes de mieux se préparer, de mieux connaître ses tendances. Donc, j'ai hâte de voir là, contre les Giants.
Question de Robin, compte tenu du rendement des Bengals jusqu'ici et surtout la non-protection de Burrow, aussi pire que par le passé, on se rappelle sa grave blessure à sa première saison. Pensez-vous réévaluer votre classement de fin de saison? Parce que c'est vrai que tout le monde avait mis quasiment les Bengals au Super Bowl encore cette année, alors que là, pourrait manquer les séries.
Moi, j'avais dit les Bengals en série. Je les voyais deuxième dans la division derrière Baltimore avec une fiche de 17. J'avais mentionné que leur calendrier était plus difficile. Quand tu as fini premier de division, ça t'amène aussi les adversaires qui correspondent. Cela dit, rater les séries, je suis pas encore rendu là dans ma tête. C'est inquiétant. Là, 13 sacs en deux semaines aux dépens de Burrow. Il se fait bombarder à répétition. Mais c'est des fois le cas d'une nouvelle ligne à l'attaque. On se rappellera qu'ils ont signé les Bengals 3 nouveaux joueurs sur cette ligne offensive-là. C'est comme un balai, là. Va falloir qu'il y ait de l'entraînement, un peu plus de cohésion. Ça peut se développer au fil de la saison. Ce qui me rassure du côté des Bengals, j'essaie d'être positif là en même temps, là, mais il n'y a pas non plus là, de force majeure à part Baltimore là, dans cette division-là. Tu regardes Cleveland, ben ça reste Cleveland. Tant qu'il n'y aura pas un corps arrière de grande qualité, ça va être dur de faire fonctionner cette attaque-là à plein régime. Puis Pittsburgh, on le voit depuis le début de l'année, ça va être encore la défense qui va traîner le show. Fait qu'il y a encore des possibilités là, pour Cincinnati. C'est pas parce que t'es à 0-2 que c'est fini. Donc, je reste positif dans leur cas.
Merci Steph, merci à tous pour les questions. On est actifs sur le groupe Mes précieux conseils de fantasy sur Facebook, vous pouvez nous chercher. Sinon, ben sur Twitter, vous pouvez nous attraper puis nous poser des questions. Ou sinon, l'adresse de la zone payante, Steph?
La zone payante à québecormedia.com. Puis juste dire aux gens qui ont posé d'excellentes questions, là, on essaie d'en prendre le plus possible. Là. La semaine prochaine, on les garde en banque, ceux qu'on n'a pas répondu. On va essayer de les ramener. Là. Disons qu'on va vous donner une priorité là, sur les prochains.
Merci, Steph. Après la pause, c'est l'heure de la prédiction. Semaine 3 déjà de la NFL.
Ça va vite.
Mais quelle semaine à venir, bougez pas. Après la pause, on en parle.